Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Par la pensée, portons-nous à Florence en l'été 1464, alors qu'il sent la mort approcher. Le vieux Côme de Médicis, le fondateur de la dynastie des Médicis, se fait lire par Marcile Ficin, le Parménide de Platon. Il meurt le 1er août 1464 et entre ainsi dans l'éternité, avec les mots et les idées du plus grand penseur de l'Antiquité grecque. Marcile Ficin, c'est lui que je vous propose de découvrir ou de mieux connaître grâce à mon invité Pierre Magnard, qui nous parlera aussi bien sûr de Platon et des académies. Bonjour Monsieur Magnard.
Bonjour Madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation à Canal Académie.
Mais tout l'honneur est pour moi.
Cette anecdote que je viens de raconter, je vous la dois puisque vous me l'avez racontée. Elle figure aussi dans l'ouvrage que vous venez de republier, « Questions à l'humanisme » aux éditions du CERF en 2011, republié parce que cet ouvrage avait déjà été publié une première fois au PUF en 2001. Il était épuisé. Il avait reçu le Grand Prix de philosophie de l'Académie française. Pour évoquer Marcile Ficin et son Académie, on ne peut trouver meilleur spécialiste que vous, qui êtes à la fois philosophe et historien de la philosophie du Moyen-Âge et de la Renaissance, discipline que vous enseignez, que vous avez enseignée à la Sorbonne, mais que vous continuez à enseigner. Vous êtes aussi un spécialiste de grands penseurs, Pascal, grand connaisseur des auteurs, philosophes et humanistes de la Renaissance, l'allemand Nicolas de Cuse, sur lequel j'espère on fera un jour une autre émission de Canal Académie, lequel Nicolas de Cuse meurt juste 10 jours après Côme de Médicis, la même année, le 11 août 1464, et aussi le français Charles de Beauvel, que vous avez fait connaître et révélé, et aussi Montaigne. Alors abordons Marcile Ficin. Il est né en Toscane le 19 octobre 1433 et il mourra à Careggi, près de Florence, le 1er octobre 1499. Autant dire qu'il couvre les deux tiers du XVe siècle. Quelle fut son enfance, sa jeunesse, ses études, ses maîtres? La parole est à vous.
Marcile Ficin était fils de médecin et il reçut une éducation très libérale, très ouverte, et il se disposait lui-même à exercer ce beau métier. Mais il entra dans les ordres et il attendit cependant un âge certain avant de passer à l'ordre le plus élevé, c'est-à-dire à celui de la prêtrise. À tel point que on glosa longtemps sur son paganisme. Lui-même un jour dira « De païen, enfin je suis devenu chrétien » pour dater précisément une nouvelle vie à partir de cette ordination. Toujours est-il qu'il ne peut pas dissocier l'enseignement de la philosophie de la pratique religieuse. Mieux que cela, il lui semble que le platonisme reste la matrice de la théologie chrétienne. Il est évidemment nourri des pères d'Église, particulièrement des Cappadociens, Clément d'Alexandrie, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze et, bien sûr, Origène. Et nourri de tout cela, il lui semble que il y a un lien qu'il faudrait essayer de renouer d'une manière très solide entre platonisme et christianisme. Et c'est pourquoi c'est avec une certaine ironie qu'il nous dit « de païen, je deviens chrétien ». Car en réalité, il s'est consacré dès l'âge de 18 ans, 19 ans, à effectuer ce nouage du christianisme sur le platonisme. Pourquoi ? Parce que il lui semble, précisément en son temps, que l'enseignement scolastique a quelque peu oublié l'origine platonicienne de la grande patristique et que, dès lors, il serait peut-être temps, pour faire face aux difficultés rencontrées par la foi dans sa relation avec la raison, de renouer platonisme et christianisme.
Et c'est Côme de Médicis qui va lui permettre de, justement, créer une académie pour faire ce lien.
Côme, celui que l'on appelle le vieux Côme, celui que l'on appelle le prince, alors que toujours il récusa tout titre et toute représentation théâtrale de la monarchie. Celui qui voulut rester toute sa vie, ce marchand, ce négociant, ce banquier qui avait parfaitement réussi dans la firme familiale. et qu'il avait à tel point développé que le système de réseau bancaire qu'il avait créé couvrait à sa mort toute l'Europe occidentale. Combe, dont on peut imaginer qu'il fut d'abord un réaliste, témoigne, à mesure que approche la vieillesse, d'un souci spirituel de plus en plus grand. N'a-t-il pas été porté au pouvoir par ses concitoyens, sans coup de force, sans pression aucune, sans urgence même de la conjoncture, simplement parce qu'il était le plus sage? Et n'a-t-il pas exercé les fonctions de premier magistrat de Florence, précisément jusqu'à sa mort? Or, cet homme qui a réussi parfaitement sur le plan des affaires, qui a réussi parfaitement sur le plan de la politique, estime à quelques 5 ans de sa mort, 10 ans disons même, que, au fond, cette vie n'est pas encore pleinement réussie. Car il lui manque d'avoir véritablement fondé Florence sur des bases pérennes. Et pour fonder Florence, alors, il découvre la politique de Platon et il entend se mettre à cette école. En même temps qu'il fait la rencontre d'un jeune homme qui, à l'époque, a juste 18 ans, et que son père, le médecin Ficin, lui a confié, et dont il a apprécié d'entrée de jeu la vivacité, l'intelligence, et aussi la réceptivité au message qu'il veut faire passer. Et c'est ainsi que va naître, entre ce vieillard et ce jeune homme, une amitié absolument exemplaire, puisque désormais, ce jeune homme sera en quelque sorte la conscience de ce vieillard. Vous avez évoqué le très bel épisode qui relève plus de la légende que de l'histoire, peut-être, à savoir que Combe est mort dans les bras du philosophe qui lui disait, le Parménide de Platon, « Alors, permettez, j'ai scruté à la loupe toute cette période. En fait, c'est vrai, mais à la condition de considérer que la lecture du Parménide remonte à quelques 15 jours de la mort et que, dans la semaine qui suit, il s'agit d'entretien, car tout a été noté, entre le jeune Ficin et le vieux Combe. Et quand vraiment il semble que la mort devient inéluctable et qu'elle est toute proche, le vieux Combe demande à Ficin de lui lire le De Morte de Xénocrate qu'il vient de traduire du grec en latin et de l'amener à s'introduire à la mort par une méditation philosophique qui soit en quelque sorte une propédeutique à ses derniers gestes qui seront les siens, la convocation de son aumônier, son audition de confession et enfin cette messe au terme de laquelle, dit-on, il rendit l'âme.
Justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que quelqu'un comme Combe de Médicis, qui était un lettré, avait accès aux textes en grec ou autrement, les textes de Platon?
Combe de Médicis comprenait le grec. Combe de Médicis lisait le grec, ce qui était quand même une performance de la part de ce marchand, de ce banquier. Car le grec était le privilège quand même de ce qu'on pourrait appeler les clercs, disons les intellectuels. Mais Combe de Médicis est quand même celui qui enjoignit à Ficin l'ordre de traduire les textes. À la mort de Combe, Ficin n'a encore traduit qu'une 10aine de dialogues de Platon. Et c'est la mort de Combe qui constituera pour lui comme le signe d'un engagement solennel à traduire tout l'œuvre de Platon, à tel point que l'on a aujourd'hui cette monumentale édition des œuvres complètes qui sera tirée dès la fin du XVe siècle pour la première édition, mais réédité très vite au début du XVIe, puis une troisième fois à la moitié du XVIe, comportant le texte latin, le Plato Latinus, comme on disait à l'époque, chaque dialogue étant précédé d'une introduction qui constitue d'ores et déjà un commentaire extrêmement pédagogique et tout à fait éclairant. C'est donc une sorte d'aggiornamento du platonisme complètement retrouvé. Alors vous me disiez, mais il avait accès à Platon. Oui, il avait accès à Platon, puisqu'il l'avait lu déjà dans le grec, partiellement, et dans les textes déjà qu'avait traduit Ficin. Mais ce qui lui semblait de la plus grande urgence, dans ces années 62-63, c'était précisément de créer un lieu dans lequel on put vivre en platonicien, apprendre Platon, méditer Platon, prolonger Platon, commenter Platon. Et ce lieu, précisément, c'est celui qui devait se nommer Académie.
Alors, ce lieu, c'est la Villa Careggi à Florence, que Côme de Médicis va donc mettre à la disposition de Marsile Ficin pour qu'il y crée une académie. C'était la seule académie à Florence ?
Pas exactement. Je dirais qu'il y avait floraison d'académie. Chacun voulait créer son académie. J'ai trouvé l'académie de Bessarion. Bessarion, c'était un professeur venu d'Athènes, un grec, et qui parlait latin, bien sûr, et qui avait créé une école qui eut un très grand succès, l'académie de Bessarion. Mais j'ai trouvé aussi l'académie d'Argyropoulos, un autre grec. Autrement dit, tout un chacun qui venait d'Athènes enseigner la philosophie à Florence se plaçait sous le signe de Platon et prétendait créer son académie. Mais est-ce que ces académies qui se multiplient et que l'on voit certains Florentins eux-mêmes créer ici ou là, j'ai trouvé une académie Alberti, par exemple, qu'un descendant de Léon Baptiste avait créé à ce moment-là, un neveu de Léon Baptiste. Or, qu'est-ce que ces établissements avaient d'académique ?
Oui, on se le demande.
C'est la question. Qu'est-ce qu'on y faisait ? Il y avait ceux qui étaient simplement des lieux où on donnait des cours, comme le studio di Alberti. Alain donnait des cours. Il y a ceux où l'on écoutait des discours tous plus éloquents les uns que les autres, et c'était des lieux de régal pour qui aimait la belle éloquence. Et devant cette prolifération d'académies, le souci de Côme était de retrouver l'exacte tradition platonicienne. Puisque Athènes était le modèle, puisque Florence voulait la nouvelle Athènes, ne fallait-il pas qu'elle ait son académie platonicienne ? Et c'est pourquoi il y a une très grande distance entre cette floraison d'académie et l'académie que Côme demande à Ficin de créer. Nous sommes en 62, c'est-à-dire à 2 ans de la mort de Côme. Côme se sent très fragile, il fait venir Ficin à Careggi. Careggi, qu'est-ce que c'est ? Careggi, aujourd'hui, c'est un quartier de Florence sans grâce, absolument sans grâce, où prolifèrent les constructions les plus modernes, les marchés, les magasins, les entrepôts.
Mais la Villa Careggi, elle est restée, on la voit encore ?
Alors, qu'est-ce que c'était exactement au temps de Côme ? C'était une sorte de banlieue arborée, plantée de villas patriciennes, où lui-même avait repris une vieille maison médiévale, comme l'indique précisément sa superstructure que l'on a conservée, et dans laquelle il fit ouvrir une façade avec de grandes baies et de larges fenêtres de type renaissant sur un parc lequel était dessiné un peu comme le seront les jardins Boboli et surtout constituant d'ores et déjà un répertoire de toutes les plantes aromatiques et médicinales que l'on pouvait faire pousser à Florence. C'est donc un jardin qui a un caractère très spécial puisqu'il est à la fois jardin initiatique au sens de l'initiation à une réflexion spirituelle et jardin médicinal puisque l'on y trouve toutes les plantes voulues. Et c'est à proximité, à quelques mètres de là, qu'il donna en l'année 63 à Ficin une petite maison qui était presque l'annexe de la sienne avec un enclos arboré afin que celui-ci y installât son académie.
Cela nous invite alors, Pierre Magnard, à parler de l'académie de Platon parce qu'on ne sait pas tout sur cette académie. Donc on fait un petit saut en arrière dans les siècles, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, je crois, et on reparle de l'académie de Platon.
L'académie de Platon, qui est évidemment l'origine, la source de tout cela, et qui doit être absolument cité, sans quoi on ne comprendrait pas du tout le projet de Côme et de Ficin. Platon, en 387, rentre d'un long exil, puisque, à la mort de Socrate, pour éviter d'affronter une opinion défavorable, il s'était en quelque sorte garé en se réfugiant à Mégare. Et de là, il tenta tout un périple qui l'amena jusqu'en Perse, en quête de vérité, surtout pour prendre du recul par rapport à ce qu'il avait vécu. cette vie de Socrate et cette mort de Socrate qui l'impressionnaient considérablement. Il voulait prendre du recul pour s'interroger sur le sens de tout cela et voir ce qu'il en était de la passion de la vérité que Socrate avait allumée dans son cœur. Car il ne faut pas s'y tromper. La grande chose pour Platon, en Socrate, c'est que celui-ci, en quelque sorte, inventa une passion fondamentale qui devait s'allumer dans le cœur de l'homme sans quoi il n'était pas pleinement un homme, et cette passion, c'était celle de la vérité. Ce en quoi Socrate rompait avec toute la tradition antérieure pour laquelle l'idéal sapientiel était la recherche du bonheur, comment vivre. Or, désormais, il ne s'agit pas de savoir comment vivre pour être heureux, il s'agit de savoir pourquoi vivre. Et ça, c'est la question de Socrate. La mort de Socrate, évidemment, rendant la question pour quelque temps caduque, on ne pouvait plus la poser sur les places d'Athènes, allait donc le précipiter dans l'exil. Et vous savez comment cet exil finit par le ramener au monde méditerranéen le plus proche, puisque c'est en Sicile qu'il va connaître sa dernière expérience auprès de Denis de Syracuse, dont il se croira devoir être le conseiller, avec bien des déboires, car Denis est un ambitieux, Denis est tyrannique, Denis est tracassier, et il va se trouver, lors de son deuxième voyage en Sicile, dans la triste condition d'un prisonnier, puisque Denis, ayant refusé de suivre les conseils de son neveu Dion, qui était très favorable à Platon, rompt avec le philosophe et l'incarcère. Il faudra que les amis de Platon rachètent celui-ci au sbire de Denis pour le ramener à Athènes. Et à Athènes, qu'est-ce qu'il va faire? On est en 87. La première chose qu'il va faire, c'est songer à créer pour l'enseignement qu'il veut donner un lieu discret, un lieu réservé, un lieu tranquille qui sera l'Académie.
Vous ne dites pas une école, justement. C'est-à-dire l'Académie de Platon n'est pas une école au
c'est
sens...
C'est pas une école comme le sera le lycée d'Aristote.
Voilà, oui.
Le lycée sera une école. Mais l'Académie n'est pas une école.
C'est un lieu de vie.
C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie en quel sens? Lorsque Platon fonde l'Académie, il le fait non seulement dans le contexte d'une Athènes démoralisée, mais il le fait l'année même d'un événement que les historiens ont retenu et qui frappe beaucoup l'attention de Platon, le fait que les représentations théâtrales des grandes pièces d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide ne se font plus au jour anniversaire d'une commémoration comme les Perses l'étaient chaque année pour célébrer la victoire précisément sur les ennemis d'Athènes, mais sont désormais inscrites au répertoire,
au programme, voilà,
des spectacles à donner pour l'amusement des peuples.
Donc on est dans la profanisation, si
exactement.
On peut dire, ça devient profane.
Le théâtre est désacralisé. L'enceinte sacrée qu'il constituait est profanée. Elle est devenu quelque chose de banal.
Et ça, Platon est très choqué au point qu'il veut restituer un lieu sacré.
Il est très choqué de telle sorte
sacré.
Que... Oui, il veut restituer un lieu sacré. Et c'est pourquoi je me permettrai une définition de l'Académie au sens platonicien du terme. C'est un lieu conquis sur la banalité de l'espace profane pour y assurer la sacralité de la vie de l'esprit. Trouver son lieu, c'est en effet trouver sa raison d'être, sa justification d'exister. C'est être ontologiquement fondé. Le lieu, c'est la demeure de ce qui, en y séjournant, y trouve sa subsistance. Mais le lieu, c'est aussi un certain rapport au temps, ce qui est très important pour la suite. Un rapport au temps, pourquoi? Parce que c'est toujours un lieu de mémoire qui nous relie à la chaîne des événements fondateurs de notre existence et qui nous permet de nous réapproprier par transmission le patrimoine intellectuel acquis par les générations antérieures. Le lieu nous accrédite comme héritiers, d'où cette pérennité de l'activité intellectuelle et spirituelle qui va s'y dérouler. N'oublions pas que l'Académie de Platon, prolongée par l'école d'Athènes, cela représente 916 années de transmission du patrimoine, 916 années de passage de cette vérité d'une génération à l'autre.
Oui, parce qu'il y a eu, donc, après l'Académie de Platon, d'autres académies. Pendant plusieurs siècles.
Il y a eu plusieurs...
Et l'école
d'Athènes,
c'est plus tard.
Il y a eu la première académie, qui reste très classique, puis la moyenne académie, puis la nouvelle académie, puis une quatrième académie, enfin une cinquième académie. Mais c'est quand même dans une relative continuité.
Oui.
C'est une transmission.
C'est exceptionnel, ça, cette continuité de la pensée platonicienne.
C'est exceptionnel, ce que cette continuité. Et il y a la fin de la cinquième académie qui intervient lorsque Sylla prend Athènes et, se comportant comme un soudard, pille tout, ferme l'académie, en emporte tous les trésors et disperse précisément les gens qui enseignent encore. Et c'est ainsi que les trésors de l'académie se retrouveront à Rome, mis en vente à l'encan. Et la petite histoire nous dit que parmi ces trésors, il y avait l'œuvre ésotérique d'Aristote, ce qu'on connaît aujourd'hui de ce grand philosophe, qui fut racheté à ce moment-là par Andronikos de Rhodes, qui devait en donner la première grande édition. Ça, c'est une des ruses de l'histoire, mais ce qu'il faut retenir de cette idée, c'est que Platon se veut de reconquérir sur la banalité de l'espace, comme je disais, un espace sacré, un lieu sacré plutôt. Et ce lieu sacré, il l'appelle Académie. Pourquoi Académie ? Parce qu'il le fait dans un quartier d'Athènes qui s'appelait le Jardin Académos, du nom d'une divinité...
Protectrice
d'Athènes, Académos. Il y avait des temples, il y avait des fontaines, il y avait des palestres aussi. Il y avait des petits lieux où se réunissaient les philosophes pour discuter. C'était donc un lieu privilégié pour la vie de l'esprit. Et c'est là que Platon choisit de bâtir son école, de lui donner un enclos, car n'oublions pas que les débats y seront, sinon secrets, du moins discrets, puisqu'on ne publie pas, et l'on prend l'engagement de ne pas publier ce qu'on a entendu, ou même ce qu'on a dit. Et si l'on écrit, cela doit rester à l'intérieur de l'école. C'est donc cette discrétion qui était imposée par la prudence du fait de la mort de Socrate, ça s'imposait, mais qui est imposée aussi par, disons, le modèle pythagoricien. Les écoles pythagoriciennes étaient fermées. De la même façon, l'Académie de Platon s'est voulu fermée. Elle s'est voulu discrète.
Pierre Magnard, je vous propose une courte pause et puis on va revenir aux œuvres de Marcille Ficin, à sa pensée humaniste et à son héritage pour terminer cette émission. Un petit moment de pause musicale. Revenons à Marcille Ficin avec Pierre Magnard. Quelles sont les traductions ou les œuvres que l'on doit à Marcille Ficin ? Quels auteurs a-t-il traduit et introduit à Florence ?
Marcille Ficin, donc, dès l'âge de 18 ans, se met à traduire Platon à la demande de Combes. Et cette traduction, qui ne s'achèvera qu'à la fin de sa vie, puisqu'il meurt en 99, va donner lieu, bien sûr, à cet enseignement qui sera celui de sa propre académie. Mais il a en outre traduit l'œuvre de Porphyre, il a traduit toute la littérature hermétique autour de Porphyre, Jamblique, par exemple, Hermès Trismégiste, ce qui alimentera chez nos contemporains l'idée d'un Ficin plus hermétiste et plus ésotérique que chrétien. Je pense à la lecture que mon ami César Evasoli a donnée de son œuvre. Mais je pense que ce n'est au fond que pour répondre à une exigence qui était celle de l'époque que de retrouver ce que l'on considérait comme les sources de la pensée moderne. Et parmi les sources, on pensait aux Prisci, philosophie, Pythagore, Teute, Zoroastre et d'autres encore, qui étaient considérés à l'instar de Socrate et de Platon comme les inspirateurs de la civilisation grecque. Alors, il a traduit tout ce qu'il pouvait trouver dans ce domaine. Mais ce qui reste de son œuvre de traduction, c'est évidemment sa traduction de Platon. Je prends cette traduction puisque j'ai le privilège de la posséder dans la grande édition que nous ont donnée ses successeurs juste après sa mort. Et je lis sur la première page « Marsilius Terris alter Plato reditus est ». Marsile, c'est un second Platon qui est rendu à la Terre. Un second Platon qui nous est rendu. Le mot est évidemment d'un de ses élèves, mais il y souscrit. Il se veut alter Plato, le second Platon, l'autre Platon. Il est l'autre Platon et c'est dans cet esprit qu'il a donné et qu'il donne sa traduction, mais surtout c'est dans cet esprit que, rompons avec cette manie qu'avaient les lettrés de Florence d'ouvrir un salon ou une école en l'appelant académie, il rompt donc avec cette manie qui lui semble fâcheuse parce que illusoire, trompeuse, en créant sa propre académie et en voulant retrouver dans cette académie l'exigence même de celle de Platon qui était de nous donner un foyer de vie intérieure.
Un foyer spirituel.
Un foyer spirituel. Un foyer spirituel à tel point que on a le sentiment qu'il a voulu parachever ce nouage dont je parlais tout à l'heure du christianisme sur le platonisme, faisant du platonisme la matrice même du christianisme, il veut les parachever en constituant une communauté fermée d'élèves, de lecteurs et de commentateurs qui vivraient selon les principes du platonisme. En chrétiens, puisqu'ils sont tous chrétiens, bien sûr, mais avec ce réquisit platonicien, laissant entendre que l'on sera authentiquement chrétien dans la mesure où l'on sera plus profondément platonicien.
Tout le monde n'a sans doute pas été d'accord avec cette théorie, je suppose.
Bien,
L'Église, qu'en disait-elle, par exemple ? L'Église officielle, j'entends,
notre,
de son époque.
Notre bon Ficin n'a jamais eu d'ennui de ce côté-là. Il a même été fait, très vite, chanoine de la cathédrale de Florence. Et il fut toujours considéré avec beaucoup de respect. Mais la querelle devait apparaître entre tenants de Platon et tenants d'Aristote. Avec Bessarion, avec Argyropoulos par exemple, et avec leurs élèves, il y eut pas mal de passes d'armes, précisément parce que ces penseurs grecs voulaient asseoir la théologie chrétienne sur Aristote, comme l'avait fait Thomas d'Aquin. Or, la grande nouveauté de Ficin, c'est qu'il entend asseoir la théologie chrétienne sur Platon. Et il le fait dans ses propres œuvres, puisque son œuvre majeure, c'est sa théologie platonicienne des âmes, qui a été très justement rééditée.
Où il croit l'immortalité de l'âme, c'est ça?
Ces derniers temps, oui. C'est tout un livre. Il y a 3 volumes dans la grosse édition des Belles Lettres, qui vient d'être rééditée en un seul volume ou en 2 volumes absolument considérables. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans les 3 volumes de la première édition? Les 2 premiers volumes sont consacrés à établir l'immortalité de l'âme selon une démarche platonicienne avec quantité d'arguments empruntés à Platon. C'est un très long commentaire du Phédon. Et la troisième partie, c'est la réponse aux objections qui sont extrêmement nombreuses de la part de ceux, soit qui ne croient pas en l'âme immortelle, soit qui veulent un autre chemin et un chemin qui serait aristotélicien.
Pierre Magnard, pour terminer peut-être cette émission, mais on vous écouterait pendant des heures, quelle fut l'importance ou l'influence de Marsile Ficin sur la pensée de la Renaissance et bien au-delà, sur la pensée peut-être jusqu'à nos jours, en Italie, mais aussi dans l'Europe?
Marsile Ficin, très vite, est apparu comme le philosophe de la lumière, au sens où un certain peintre sera bientôt appelé Angelico, il ne l'était pas avant sa mort, qui sera le peintre de la lumière. Il y a comme une sorte de parenté entre ces deux penseurs, Fra Angelico et Marsile Ficin. Et ce qui les unit, c'est justement ce sens de la lumière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui, pour Ficin, constitue la manifestation la plus sensible de la vérité la plus haute et la plus intelligible? C'est précisément le rayonnement du soleil. Et se fondant sur le fait que le latin possède 2 mots pour dire cela, il appellera lumen, cette splendeur d'un paysage tout entier illuminé par un soleil en plein midi, et lux, pour désigner l'astre lui-même, d'où cette lumière émane. Et toute sa réflexion consiste au fond à se demander la relation qu'il y a entre les rayons du soleil et l'astre solaire. Les rayons du soleil, ce sont toutes les créatures. Nous sommes des rayons de ce soleil. Mais le rayon peut-il être détaché de son soleil ? Il n'a de réalité que dans et par lui. Et c'est pourquoi l'apologétique ficinienne est au fond une apologétique très simple. C'est une réflexion sur le rayonnement lumineux. Ce rayonnement lumineux qui nous montre comment le monde se constitue, comment il se fait, comment il se crée, comment il se manifeste, comment il se révèle, comment il s'affirme à nos yeux.
Peut-être qu'il sera dans une autre vie.
Mais aussi,
peut-être,
qui nous amène à considérer quelle en est l'origine, d'où tout cela procède, comment cela surgit et comment cela se développe. Et vous parliez d'une autre vie. Elle est partout présente, cette autre vie, dans ce retour précisément de l'humain à l'ux et dans ce fait que tout rayonnement lumineux doit être pris en son double sens. Il émane du soleil, mais c'est toujours pour y faire retour. Car que sont nos vies, si elles sont bien conduites, et surtout nos pensées de philosophe, si ce n'est un retour de la lumière que nous avons reçue à son principe d'origine ?
C'est l'humaniste Pierre Magnard là, qui nous ouvre des portes vers justement ces notions humanistes. Je voudrais seulement, pour vous remercier Pierre Magnard, citer deux de vos ouvrages, il y en a beaucoup, mais au moins deux, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, « Question à l'humanisme » qui vient de reparaître aux éditions du CERF, qui est un livre de philosophie, et puis aussi votre ouvrage sur Marcille Ficin, c'est un ouvrage collectif, Marcille Ficin, les platonismes de la Renaissance, collectif, et notamment avec Cesare Vasoli que vous avez cité tout à l'heure et qui est l'un des grands spécialistes, je crois.
Le grand spécialiste italien.
Le grand spécialiste de la pensée de Marcille Ficin, c'est paru chez Vrin en 2001. Merci beaucoup Pierre Magnard de nous avoir éclairé sur l'académie platonicienne, sur cette époque de Florence à l'époque de Marcille Ficin. Et merci si vous revenez une autre fois pour nous éclairer sur Nicolas de Cuse. On vous accueillera avec grand plaisir.
Merci chère madame. Thank you.